définition et essence de la poésie. La poésie est un genre littéraire qui se veut un langage spécial, un langage de la différence. Elle est un code de communication harmonieux par le son et harmonieux par le rythme, indissociable du chant. Elle est définie dans le Robert comme un « art du langage », généralement associé à la versification visant à exprimer quelque chose au moyen de combinaisons verbales, où le rythme, l'harmonie et l'image ont autant et parfois plus d'importance que le contenu intelligible lui-même. Le vocable « poésie » provient du grec « poiein », qui signifie « fabriquer, faire, créer ». Par conséquent, la poésie est une invention, une création. Son rôle est d'évoquer la réalité de façon créatrice, d'interpréter le réel ou de faire naître un univers qui lui est propre à travers le langage. Elle dispose pour cela de formes spécifiques qui l'éloignent ou parfois la rapprochent de la prose. La poésie se donne la double vocation de transcrire et de créer. C'est grâce au langage que s'opère cette transmutation. Elle s'apparente, comme le disait du Bellay, à une alchimie, allant selon Rimbaud, jusqu'à inventer son propre langage. Cependant, il faut noter que la poésie, comme toute création, ne peut pas se contenir dans une seule définition. Chaque poète ou chaque groupe de poètes tente de donner sa propre définition de la poésie, car même si elle est partout présente, la poésie n'a ni le même objet, ni la même finalité, ni la même forme. Grands deux genres poétiques et utilites de la poésie selon qu'elle raconte, exprime des sentiments, les met en scène ou réfléchit à leur sujet et, selon la forme adoptée, la poésie se divise en différents genres, épique, lyrique ou didactique. 1. La poésie épique, elle se rencontre dans les épopées. L'épopée est un genre héroïque. Son but est de sublimer, de galvaniser les jeunes générations. Bref, c'est un genre noble et patriotique. L'épopée la plus ancienne est celle de Homère, premier poète grec, l'Iliade et l'Odyssée. L'épopée est restée une tradition vivante à travers les siècles. On peut citer par exemple la chanson de Roland, par Chrétien de Troyes, qui chantait le règne de Charlemagne, qui, par sa bravoure et son courage, empêcha l'islamisation de l'Europe, la Franciade de Ronsard, la Henriade de Voltaire, la Légende des siècles de Hugo. La poésie épique vaut par son souffle, c'est-à-dire sa force, mais elle ne touche pas profondément le lecteur qui reste, différemment du poète, étranger à l'intrigue. En Afrique, ce poème de nature élogieuse est encore déclamé par les griots, mémoire des peuples, des rois et des marabouts. B. La poésie lyrique. Dans la poésie lyrique, l'homme analyse ce qu'il ressent. Les premiers poètes lyriques furent les trouvères du Moyen-Âge qui racontent leurs aventures difficiles. Charles d'Orléans et François Villon donnèrent à cette poésie une dimension supérieure. Elle est le fruit de l'expérience personnelle, mais le poète ne se contente plus de se raconter. Il analyse ses sentiments et réfléchit sur la condition de l'homme de sorte que le lecteur puisse être plus profondément touché et ému. L'amour, la nature, la fuite du temps, la nostalgie sont les sujets d'inspiration les plus courants, mais les thèmes peuvent être plus philosophiques, voire métaphysiques. Dieu, les mystères de l'âme humaine, du monde, etc. Ronsard et du Bellay sont aussi de grands poètes lyriques. Cependant, il faut noter que l'explosion véritable du lyrisme en poésie s'est produite au XIXe siècle, avec l'avènement du romantisme. C'est la poésie didactique. Son rôle essentiel est l'enseignement des hommes à travers deux formes principales, la fable et le satire. Ces deux formes sont d'origines anciennes, mais très peu répandues à travers les siècles. La fable, c'est un petit récit plaisant en vers, caractérisé par des personnages bien définis, hommes ou animaux, correspondant à des types humains, avec une moralité, une expression de bon sens ou d'une sagesse sans prétention. Les maîtres dans ce genre sont Ésope, La Fontaine, Florian, Juvénal, France Nohant, le satyre. Comme la comédie, elle châtie les mœurs en riant. Les personnages, en situation dans ces pièces, fustigent le défaut ou les ridicules de certains types humains qui sont ses cibles de prédilection. Mais très peu de poètes sont attirés par ce genre, où pourtant, La verve, force, la finesse de l'observation, la fantaisie et l'humour se déploient aisément. Comme poètes satiriques, nous pouvons citer Oracle, Boileau, Renier, etc. La poésie est la musique de l'âme, et surtout des âmes grandes et sensibles, écrira Voltaire. La poésie est aussi beauté, couleur, forme, musique. Mallarme l'a bien rendu dans cette phrase en affirmant « Il n'y a que la beauté, et elle n'a qu'une expression parfaite, la poésie ». La poésie peut être utile pour les connaissances qu'elle donne. La sensibilité y est un maître mot, car la poésie l'affine et l'enrichit, l'enflamme et l'incite à l'action, console et apaise, permet la communication entre les hommes. Enfin, elle a une valeur morale, purification des passions, exaltation héroïque, nationale et sociale, et une valeur civilisatrice, comme en témoigne son importance dans les civilisations antiques. Grand 3, les missions de la poésie, plus que toute autre forme d'expression littéraire, peut apparaître de nos jours gratuite, voire inutile. Or, durant de nombreux siècles et jusqu'à nos jours, elle avait et a encore à bien des égards de haute mission, à connaissance du monde. La poésie facilite notre connaissance du monde, en ce sens qu'en dévoilant ce qui était caché à nos regards, obscurci par l'habitude, le poète contribue par là à une nouvelle approche du réel, de façon passive ou active. Claudernes écrit en ce sens. La poésie est connaissance du monde, car le poète démiurge recrée le monde à sa manière. Eugène Guillevic dira aussi « Je crois que la poésie est un moyen de connaissance, un des moyens de comprendre le monde. Cette connaissance du monde se fera par la description et la suggestion. C'est l'exemple de Jean de La Fontaine avec les fables et la poésie symboliste. » B. Connaissance de l'homme. La poésie a aussi pour mission la transcription du monde intérieur. Elle permet en effet au poète de mettre en forme les sentiments qu'il éprouve, comme la mort, le temps qui passe, l'amour, la nature. En traduisant poétiquement ses propres sentiments, le poète les dépasse alors dans une sorte d'universalité des émotions où chacun se retrouve. C'est dans ce sens que Victor Hugo écrira dans la préface des Contemplations. « Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas ? Ah ! Insensé, qui croit que je ne suis pas toi ? » La poésie dévoile cet univers intérieur par le jeu des images, des rapprochements, par les recherches sonores, par l'harmonie et la musicalité. La poésie permet donc la connaissance de l'homme à travers le lyrisme, poésie humaniste et romantique. Voltaire écrira en ce sens que « la poésie est la musique de l'âme, et surtout des âmes grandes et sensibles ». Aussi, le poète est autant inspirateur qu'inspiré, disait Paul Éluard. Dire que le poète nous inspire, c'est accepter qu'il nous communique son enthousiasme, sa puissance visionnaire, sa sensibilité, par l'émotion affective et esthétique. Il nous offre une connaissance intuitive du cœur humain. Cette connaissance de l'homme se fait à travers le lyrisme. Du Bellay disait à ce propos « Je me contenterai de simplement écrire ce que la passion seulement me fait dire, sans chercher ailleurs plus grave argument. C'est connaissance de l'absolu. » Les poètes ont rêvé d'un au-delà d'idéal, d'une perfection universaliste, d'un amour platonique, d'une harmonie salvatrice faisant de leurs poèmes un sésame. Au monde logique, la poésie préfère le domaine de l'irrationnel qu'elle seule peut explorer, car l'état poétique est voisin de l'état mystique. À ce propos, Rimbaud disait « Je dis qu'il faut être voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Et Baudelaire affirmera que c'est par la poésie et par la musique que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Cette création d'un monde inconnu fait du poète un mage, un prophète divin, un Prométhée, selon Rimbaud. D. Engagement. Une littérature est engagée lorsqu'elle exprime des prises de position et dénonce ce que l'écrivain considère comme des atteintes aux droits des humains. Pendant longtemps, la poésie a été didactique, messagère de leçons d'éthique, morale et politique. Au XIXe siècle, le poète se proclame prophète des temps futurs. Dans Les rayons et les ombres, 1840, Victor Hugo écrit « Peuple, écoutez le poète, Écoutez le rêveur sacré. Dans votre nuit, sans lui incomplète, lui seul a le front éclairé.